L'émission que vous allez écouter maintenant est réalisée en partenariat avec Radio Éphémère à Toulouse. Émission initialement diffusée le 6 juillet 2016 sur Radio Éphémère. Bonne écoute. C'est une tuerie tes épinards, l'émission dédiée à la cuisine, aux brûles de casseroles, aux petits restos, aux paysans et aux poètes, bref à tous ceux qui combattent la standardisation, commence. Vous avez reconnu peut-être la bande originale de Pour une poignée de dollars, un western spaghetti réalisé par le grand Sergio Leone en 1964 avec Clint Eastwood. Et oui, nous sommes partis à la rencontre d'un cow-boy, un cow-boy de la Haute-Garonne, et plus précisément du nord-ouest de la Haute-Garonne. Donc ce cow-boy, bien sûr, ici on l'appelle pas comme ça, on dit que c'est un éleveur de vaches, mais un éleveur de vaches qui a la particularité de faire son restaurant où l'on mange la viande de ses propres vaches. Ça, c'est assez exceptionnel pour que nous ayons décidé d'emmener notre micro à sa rencontre. Maintenant, on part en voyage. On fait 45 km à vélo, à pied, plutôt en voiture pour la plupart d'entre nous. Et on prend donc la direction de Brignemont. Alors à Brignemont, il y a un très joli village avec un moulin, un ancien moulin, parce qu'on est en hauteur, on domine toutes les Pyrénées, une vue magnifique. Les Pyrénées, vous le savez peut-être, mais l'été, on ne les voit pas vraiment. Il faut plutôt attendre l'automne ou le printemps pour les voir, ou même l'hiver. Mais bon, vous verrez au moins les paysages du Gers devant vous. Et puis vous rentrez par cette petite porte où se trouve le restaurant Au Bœuf d'Antan, de Daniel Lovato.
Pimenté ou forte, un peu forte, poivrée, pour justement donner un goût, masquer un goût, que l'authenticité, ça se perd, quoi.
Eh oui.
De toute façon, on est plus dans le gigot, quoi.
Ah non.
C'est un moment qu'on marche sur la tête. C'est un peu décevant quand même, il faut le dire.
Ah, qu'est-ce que vous voulez, Daniel ? Il démarre directement dans le dur. On parle et tout de suite, il nous évoque l'authenticité. Le fait qu'aujourd'hui on masque beaucoup de choses, notamment les viandes, avec des sauces à tout va. Et alors n'allez pas lui demander une moutarde pour accompagner votre côte de bœuf, parce que alors là, il va vous rétorquer aussi vite que mettre de la moutarde sur sa viande, c'est comme si sa vache était morte pour rien. Alors pour vraiment démarrer la conversation, je lui ai posé une question sur justement sur les gens qui sont, alors vous le savez peut-être, qui sont sarcophages ou zoophages. On aurait apparemment plutôt aujourd'hui des sarcophages, c'est-à-dire des gens qui mangent des steaks. Et les zoophages seraient en disparition. Mais quand on vient chez lui, c'est un peu difficile de croire qu'on va rencontrer d'autres personnes que des zoophages.
Tu connais ce terme, ces deux termes ?
Non, c'est quoi ?
Alors zoophage, c'est les gens qui mangent des animaux.
Oui.
Bon, par exemple ici, ça voudrait dire qu'on mangerait des... En fait, ce que tu m'aurais servi, ça serait issu d'un bœuf.
Oui.
Enfin, une vache, quoi.
Oui.
C'est ça, hein ?
Oui.
Un sarcophage, par contre, il ne mange pas d'animaux.
Oui.
Il mange une viande, mais qui est issue d'un sac plastique.
D'accord.
Livré dans le, tu vois, dans le supermarché.
Oui, d'accord.
En morceaux, avec une jolie photo souvent.
Oui.
Et une petite,
avec une marque aussi dessus.
Il y a une marque
dessus, qui passe à la télévision. Alors,
mais
si
on a oublié
à la télévision,
que ça venait d'un animal.
Okay.
C'est sarcophage. Et les sarcophages ont tendance à prendre l'ascendant sur les zoophages.
Oui.
On oublie qu'en fait, on mange des bêtes.
Tout à fait,
Donc toi, ici, dans le restaurant, on mange plutôt des animaux.
Ah oui, c'est des animaux oui, qui vivent le plus longtemps possible, du reste. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai soulevé le problème lors de réunions sur l'abattage. Voilà. Parce que tout le travail que l'on fait en amont, c'est-à-dire on engraisse les bêtes sur un an avec des céréales aplaties, du foin, deux ou trois variétés de foin, donc on ne stresse pas l'animal, tout ce qui s'ensuit. Et puis du jour au lendemain, on l'amène à l'abattoir. Donc ça veut dire que l'animal doit monter dans un véhicule, faire des kilomètres, partir dans... On le laisse dans un abattoir, on le laisse dans une logette en ciment avec deux chaînes anti-retour, alors qu'au préalable, il a été élevé dans un box sur de la paille. Donc, et il va passer la nuit là pour être visé.
Pour être visé ?
Visé par un vétérinaire, tu vois. Et au même titre, il vise des bêtes qui ont été... qui ont subi des manipulations, quoi. Antibiothérapie, et puis il y a pire encore. Et du coup, la bête, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle stresse. Du fait qu'elle stresse, elle libère les toxines. La maturation ne devient plus optimale. Et surtout, notre travail est mis à mal. Ou à ça. Et moi, j'avais ma petite idée là-dessus. Enfin, j'ai réinventé, ça existe ailleurs. Parce que mon grand-père, déjà, il m'avait initié. Il m'avait dit, petit, si tu peux pas innover dans la vie, au moins copie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais là, j'ai du mal parce que ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Autriche et ça existe en Allemagne. L'abattoir vient à la bête. Ça, c'est intelligent. Tu caresses ta bête parce que voilà, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je remercie ma bête quand je l'amène à l'abattoir. Mais elle va mourir. Ça, c'est sûr. Ou sinon, ça m'a posé des problèmes de conscience. J'avais dit, ou je fais ça et j'accepte, ou sinon, j'arrête et je deviens végétarien. Voilà. Donc là, tu caresses ta bête, la bête est tuée instantanément, bam, et dépecée comme dans un abattoir. Elle peut être même visée par un vétérinaire. Il n'y a pas de problème.
Après la mort. Ouais.
Bien sûr. Il peut même passer avant. Il n'y a rien qui peut changer. Ouais. Il y aura les visites que tu vas payer, une avant, une après, et peut-être une pendant, au passage. Voilà. Et ça, j'aimerais que ça arrive.
Parce oui, que là, vraiment... c'est vrai que le focus, il est posé sur l'abattoir. Il y a cette association L214 oui, là, qui reprend cette loi comme quoi il faut être attentif aux bêtes. Et
oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais de toute façon, où on peut pousser le bouchon plus loin, je veux dire, c'est que là... alors, ça, c'est valable pour les gens comme moi qui faisons de la vente directe. Tu vois, mais pour l'éleveur qui vend sa bête à un négociant ou à un chevillard et qui va être abattu, ça va continuer la filière. On peut juste l'améliorer, mais il y a des abattoirs où ils douchent les bêtes, ils passent de la musique classique et compagnie. Je veux dire, il y a des gens qui ont compris quand même. Là, ça s'appelle du respect de l'animal. Voilà. Mais on ne pourra pas faire venir des abattoirs partout. Parce que c'est pas la volonté non plus des gens. Il faut que ce soit la volonté. Il y a que les éleveurs qui font de la vente directe qui vont être sensibilisés par ce truc. Encore peut-être pas tous. Mais enfin, moi, toujours, je le suis à 100%. Parce que ma viande, elle aurait encore un autre goût.
Voilà. Donc toi, tu l'emmènes.
Moi, je l'amène à l'abattoir. Je l'amène à... Et ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas déroger à ça. Il te faut l'amener à l'abattoir. Donc, elle est visée antémortem, post-mortem. Elle reste en chambre de maturation. Voilà. Elle est en consigne, je ne sais pas, une période de journée ou une journée, pour voir si tout va bien, voilà, et après, voilà, elle suit la filière normale, elle est dirigée, ou elle doit être découpée, ou si, voilà. Enfin, avant cela, on laisse maturer, enfin, du moins les miennes, moi je laisse maturer. Alors. Mais ça, je pense que l'abattoir à la maison, déjà, ça serait un grand pas. On pourrait encore expliquer aux gens aussi le pourquoi du comment. Parce que il y a beaucoup, quand on voit des émissions comme ça, elles sont quand même ciblées, je pense. C'est-à-dire, alors forcément, ça dégoûte un peu de manger de la viande.
Oui. Ça peut. Oui, parce que la résultante, c'est de dire, bon, on va devenir végétarien.
Oui. Et voilà. Donc, si on devient végétarien, on va freiner ou on va se diriger vers d'autres volailles, vers la volaille ou le poisson, qui n'est pas considéré pareil. Je pense que c'est aussi un animal. Quand on voit le dégât qu'ils se permettent de faire dans les mers et océans.
Et puis ça entraîne quand même Enfin, ça veut dire qu'on n'aura plus d'animaux domestiques à un moment.
Ah ben oui,
on n'aura plus de vaches dans les prés. Enfin,
ah non, mais ça, tout à fait, ça y est, ça c'est fait. Tu vois ici, ici et partout, les villages autour, il y avait des vaches, je vais dire 30 ans en arrière, il y avait des vaches à toutes les fermes. Au jour d'aujourd'hui, sur la commune de Brignemont, s'il y a 250 bêtes, c'est le bout du monde. Tu vois ? Sur ma commune à La Grolée, il y a. Bon, le plus gros éleveur, c'est moi, bien sûr. Après, il y a trois autres ou quatre éleveurs. Voilà, terminé. Il y a des villages où il n'y a plus aucune bête. Contrainte, si c'est pas dans les gènes, si tu es pas un passionné, qu'est-ce que tu fais ? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu es là, matin et soir. Et encore, il ne faut pas se plaindre, comparativement aux laitiers, qui, eux, sont là, et on leur paye 27 centimes le litre de lait. D'accord ? Ouais, il y a du boulot, hein ? Il y a du boulot à remettre tout ça en ordre. Et alors après... Bon, il faudrait que les gens en prennent conscience. Seulement, il faudrait qu'il y ait des émissions, il faudrait que les émissions intelligentes passent aux grandes heures d'écoute et compagnie, ce qui n'est surtout pas le cas, parce que ça pourrait éveiller les consciences, et ça peut être dangereux.
Là, vous avez compris ce que c'était que de rencontrer Daniel Lovato. C'est quelqu'un d'engagé. Alors, on va passer un bon moment dans son restaurant, mais si on commence à parler avec lui, on sent toujours en arrière-plan cet engagement à la fois pour ses bêtes, puis ce rejet un peu d'une société qui a tendance à masquer beaucoup de choses dans les méthodes d'élevage, dans les méthodes d'abattage dont on parlait, et même, bien entendu, dans les méthodes de restauration. Donc là, finalement, il parle assez peu, Daniel, de son travail de restaurateur. Et j'aurais envie de le défendre. C'est quelqu'un qui va vous proposer des morceaux de viande de choix. Une côte de bœuf, pour lui, bah, voilà, c'est la côte complète avec la viande qui va autour. Donc ça peut être un morceau de facilement un kilo. Donc bon, voilà, il faut quand même être prêt à manger un kilo de viande à deux. Les prix sont plutôt raisonnables. Et surtout, c'est succulent. C'est-à-dire que lui, tous les jours, va mettre en route la cheminée. Vous allez entendre la cheminée crépiter à côté de vous. Bon, mois de juillet, vous allez peut-être trouver ça moyen. Il n'y a malheureusement qu'une toute petite terrasse. Mais à l'intérieur, il a un bel espace. Et aux saisons plus fraîches, aux saisons plus froides, ça va être vraiment très plaisant de se retrouver là, pas loin de la cheminée, et de manger cette viande qui est extrêmement tendre, qui a du goût, et avec des portions vraiment généreuses. Alors pour être allé en Argentine pendant une période de ma vie, enfin pendant quelques semaines, pour le mariage d'un ami il y a une vingtaine d'années, j'ai eu le plaisir de goûter à ces viandes argentines, très moelleuses, avec beaucoup de goût, et puis surtout des morceaux... absolument gigantesque par rapport à ce qu'on voit habituellement. Donc là, on est un petit peu dans cet esprit-là. J'aurais pu passer de la musique argentine plutôt que le côté western, parce que vraiment, on a l'impression de se retrouver avec des portions comme en Argentine. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci Daniel, en tout cas. On va continuer en écoutant Daniel Lovato nous expliquer quel est le projet de son restaurant.
Parce que ça fait un petit peu... Quand je t'entends en parler, c'est quand même pour parler des vaches.
Oui. Hein, oui. Enfin, le restaurant, si tu veux, pour ce que je voulais faire, j'aurais pas dû me trouver ici. J'aurais dû être en ville.
Ouais.
Parce que la ville, c'est beaucoup plus porteur. Ouais. Malheureusement, les gens sont plus en quête de produits, d'authenticité, qu'à la campagne. Remarque, à la campagne, c'est ce qu'on soit un peu. Parce qu'ils l'ont, ça. Mmh. Ils ont tous leur jardin, ils ont des poules, tout ça. Donc, ils sont moins sensibilisés à ça. Parce que pour eux, ça reste normal. On parle de bio aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans, c'est tout le monde de cultiver, son petit jardin, il mettait un peu de produits, mais pas trop, voilà quoi. Et donc, c'est en fait, on parle d'un truc qui sort de l'ordinaire, mais qui est tout à fait naturel, que l'on pratiquait et qu'on a perdu au fil des jours. Pourquoi ? Parce que la société a évolué, pas dans le bon sens, c'est la preuve, puisque ça, malheureusement, au quotidien, on le vérifie. Mais le but, c'est justement de vendre de la viande derrière. Voilà. Et c'est un peu ma vitrine
Voilà, les gens viennent ici, et après, bon, je touche pas quand même beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il faudrait faire sortir, se faire reconnaître, faire la dégustation, par exemple, et afin de pouvoir écouler son produit, et afin de pouvoir vivre derrière, voilà. Donc, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Le reste, c'est ça s'autofinance. Mmh. Je perds pas d'argent, mais j'en gagne pas. Voilà, je suis un peu en déficit chaque année. Mais bon, ça, j'ai l'espoir que ça va d'inverser la vapeur. Je ne demande pas de gagner des millions, mais au moins de pouvoir vivre de mon métier, quoi. Des heures que je fais, comme ça, je crois qu'il faut un peu l'oublier. Quand même. On en est loin. Mais bon, le but, c'est ça, voilà. Le restaurant, c'est de... Et il y a aussi la convivialité, quand même. Le fait que j'aime cuisiner.
Oui, tu aimes bien la relation aux gens.
Oui, voilà, ça, y a, voilà c'est ça. Au travers de la restauration, si tu veux, je fais passer, enfin, du moins j'essaye de faire passer quelques messages.
Ouais. Voilà.
Et de sensibiliser les gens, justement, pour. Je veux dire, c'est, il ne faut pas que ça soit prétentieux, mais pour dire la survie des producteurs.
Mmh.
Tu vois ?
Ouais.
D'ouvrir les yeux, parce qu'on est, on est en souffrance, autant financièrement que moralement, parce que ça va de pair, de toute façon. Mmh. Et justement, d'essayer de sensibiliser les gens et dire il faut vraiment faire quelque chose et vite. Sinon, on va disparaître.
Mmh.
Et ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un microscope. Tout le monde peut le vérifier, malheureusement.
Mais voilà. Pourtant, tu fournis des pommes de terre McCain, tu disais tout à l'heure.
Oui, voilà, McCain, tout à fait. En fait, l'histoire de McCain, c'est que... un jour, il est arrivé plein de gens nouveaux ici qui mangeaient et qui me demandaient ce que je servais en accompagnement. Et ça m'est venu comme ça parce que j'avais dû voir une pub, tu vois, en faisant lors d'un déplacement dans les grands magasins où je vais pratiquement tous les jours, du reste. Et je dis, mais je vous sers des McCain et de la salade en sachet, vous savez. En fait, vous appuyez sur le sachet, ça fait poum et vous versez. Vous n'avez pas besoin de la laver parce qu'elle a été lavée ou pas d'ailleurs, mais ça donne un peu de goût. Et il y avait un couple qui était en face de la cheminée. À un moment donné, la dame, elle s'est levée, elle est partie, et est revenue avec ce panneau. Et une paire de gants pour chaud ou froid, je ne sais pas, non, froid, pour sortir les manquettes du congélateur. Elle m'a dit, la prochaine fois que je reviendrai, je vous amènerai les gants pour s'occuper du chaud.
Pour le chaud.
Et du coup, j'ai mis le panneau, et depuis lors, j'ai découvert la McCain tradition, je crois, et je sers la McCain tradition, que je pèle quand même.
Voilà. Il y a un micro qui fonctionne, là.
Limonade.
Limonade,
vas-y, il n'y en a pas de limonade ici.
Il n'y en a plus, Damien.
Il n'y en a pas. Ouais, on va faire. Il m'a donné la recette.
Tu as du chocolat fondu, là?
Là, oui, par contre, mais il n'y aura pas de bulles, mais bon.
Tu peux te prendre une boule de glace?
Oui, bien sûr,
ouais.
Tu veux quoi?
Je sais pas.
Oui, on l'entend en train de travailler, en train de faire ses préparations dans la cuisine. Daniel, quand il n'est pas au restaurant, il est à la ferme. Quand il n'est pas à la ferme, il est au restaurant. C'est ouvert 3 jours dans la semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc là, il est au restaurant. Le reste du temps, il est à la ferme ou en livraison, car vous pouvez aussi lui prendre de la viande, il fait des colis en circuit court, on peut l'appeler. Et d'ailleurs, il a un problème avec ses steaks, on va lui en parler, on va en entendre parler.
Ou du moins à nos vaches, ou à nos patates. Eh ben, le but, c'est vraiment d'arriver à vendre un peu plus de viande, notamment du steak haché, parce que vraiment...
Du steak haché?
Ouais.
Pourquoi tu dis ça, le steak haché?
Ben parce que je disais tout à l'heure sur les velours là, qui tu peux pas les mettre sur off, tu vois.
Ouais.
Donc une fois ils sont veaux sous la mer jusqu'à 5 mois et demi, 6 mois maximum, et après ils continuent à faire de la croissance. On aurait le bouton off, tu vois, en attendant d'avoir la clientèle, c'est bien, mais je l'ai pas, j'ai pas trouvé. Alors, après j'ai peut-être pas fait d'effort non plus. Hein. Parce que bon, c'est toujours pareil. Hein. Et donc ces veaux ils sont plus en veau, ils sont pas encore en bœuf, donc le goût et enfin, la couleur n'est pas au rendez-vous. Et dans l'esprit des gens, ben voilà quoi. C'est marrant. Je fais de la saucisse de veau et de bœuf. Tu veux de la chantilly?
Ça va aller avec?
Oui, impeccable, tout va bien.
Merci d'en aller.
Autant d'en aura.
Merci.
Et oui, là, j'en reviens à la saucisse. La saucisse, dans l'esprit, tu vois, tu la fais cuire parce que c'est la saucisse de porc. En fait, la saucisse de bœuf, il faut la laisser saignante, voire bleue, la remettre à cuire si vraiment, tu vois, ça te convient pas. Et donc, ça aussi, c'est une éducation. Il faut. C'est vrai que la saucisse, le steak haché, nous, c'est tourné, retourné. Enfin, pas pour le steak haché. Et là, t'as c'est juteux, ça a du goût, c'est. Voilà. Et surtout, il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun produit dedans. Et ça, c'est important.
Ouais.
Tu vois, il n'y a pas eu de. Nous, on ne met pas de pesticides, on ne met pas de foin. On ne met aucun produit. Mmh. Pas d'engrais. Le seul engrais qu'on met, c'est du foin. C'est du fumier, pardon. D'ailleurs, tu vas en voir des
piles tout à l'heure. Et comme t'es bien chaussé, ben on va aller bosser.
On va pouvoir y aller tranquille.
On va pouvoir y aller tranquille, marche gaiement dedans.
Voilà, donc c'est bien un éleveur. Comme vous pouvez vous rendre compte, il va certainement faire beaucoup plus de steak haché au restaurant. Et comme il en a quand même presque 4 tonnes, qui est encore sur pattes, qui pousse encore, comme il dit, hein, il n'a pas trouvé le bouton off, eh bien, c'est quelque chose que vous allez peut-être vous retrouver dans votre AMAP sur la région toulousaine ou chez certains restaurateurs, parce qu'il entend bien ne pas en rester là et ne pas abandonner cette viande. On va maintenant faire une petite pause après tout, voilà, ça fait 20-25 minutes qu'on est ensemble, et on va écouter un morceau qui s'appelle La Vache, bien sûr, d'un certain Ricounès. Et on se retrouve donc juste après.
Jeter la chanson de la vache camargaise, celle qui saute les barrières et qui fait monter les enchères. 10 fois de plus à la cocarde, à la une, à la deux, 1, 2, 5 et 8.
La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Ouais. Moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Elle s'enfuit dans les roseaux et là ça, la belle. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Elle revient au pré, elle est triste, fatiguée. Et ça ne l'empêche pas de garder la tête haute et toute sa fierté. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Hey, moi je connais une vache qui va vite. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo. Hey, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux.
De la part du chasseur de Galicia, 10 fois de plus. De la part du pêcheur d'Anguille, 10 fois de plus. De la part du parisien qui vient de se faire greffer la langue, 10 fois de plus. Et la direction porte la première ficelle à 1500 francs. Messieurs les auteurs, dernière minute de course.
Première chaleur, quand les mâles sont ailleurs, elle saute la clôture. Elle laisse ses copines parler mal de leur voisine, elle part à l'aventure. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est par chaud. Ouais, moi je connais une vache qui drague tous les taureaux.
Vous êtes dans C'est une tuerie des épinards et vous venez d'écouter Ricounès, la vache. Voilà, pour rester dans le thème bien sûr de l'élevage de vaches, de cet éleveur-restaurateur Daniel Lovato qui nous a reçus chez lui dans son restaurant à Brignemont. Puis nous nous sommes rendus à la ferme. La ferme, c'est une grande ferme quand même, hein, plusieurs centaines de vaches, entre 200 et 300 en fonction des périodes. Et on va aller justement rencontrer ces vaches. Donc, tu as combien d'hectares, rappelle-nous ?
200 hectares. Hein.
200 hectares.
En prairie naturelle. Pas d'engrais, pas de désherbant, pas d'ensilage, que dalle. Voilà. De l'herbe et pour l'engraissement, du foin, des céréales aplaties. Et le temps au temps. L'engraisser les bêtes. Toutes les bêtes que tu as là-bas au début de la stabu, c'est des bêtes qui vont passer un an et demi dedans à être engraissées. Quoi.
Donc, tout nous, doucement. On mange la viande des vaches et les vaches, elles mangent l'herbe.
Ben, mes vaches sont entièrement végétariennes.
Elles sont entièrement végétariennes.
Oui. Elles mangent de l'herbe, du foin et des céréales.
Et des céréales, ouais, ouais. Mais l'été, elles mangent uniquement
l'herbe.
Ah
non, mais les bêtes qui ont les mères... Elles sont à l'herbe 10 mois de l'année.
D'accord.
Voilà. Elles, bon, si, bien sûr que s'il se met à faire une sécheresse, comme certaines fois il ne pleut pas au mois d'août, après quand l'automne est sèche, je mets du foin dans les champs, bien sûr. Et une ration de céréales si besoin. Mais sinon, l'idéal c'est d'avoir de l'herbe et de l'herbe. Voilà. Et après, bon, quand elles sont dedans, c'est pareil, une ration de céréales, là, tu vois, tout le long, et du foin. Alors, soit dans les nourrisseurs.
Le foin qui vient de.
Et le foin de l'exploitation. Hectares, voilà, l'exploitation. Ouais. Enfin, on ne le fait pas sur 200 hectares, on le fait sur 75 hectares chez nous, et après, on fait une cinquantaine d'hectares autour, tu vois, des petits champs. Certains font 3 hectares, certains font 1 hectare, voilà. Mais de l'herbe naturelle, toujours pareil. Ouais. Quand on a la chance qu'il pleuve, comme ça,
que ça pousse. Et alors, une herbe, ça se travaille, l'herbe des champs.
C'est ah ben il y en a oui qui sèment du régras, qui sèment de la fétuque, des trucs comme ça. Enfin, le régras c'est annuel, donc ça monte, ils mettent beaucoup d'engrais, tout ça. Bon. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Quoi. Je préfère les herbes naturelles. Déjà, les prairies naturelles, il y a au moins une dizaine de variétés d'herbes qui se complémentent. Et après ça... Je le vois parce qu'une fois, mon père avait une année de sécheresse, il avait pris de la fétuque, un porte-graine. Là, donc, ça, il coupe la première coupe. Donc, quand ils ont enlevé la graine, plutôt, il reste le foin. Donc, il refauchait parce qu'il y avait encore de l'herbe fraîche. Ah, mais ça, c'est un truc qui est super économique. Quand on l'a mis aux bêtes, là, à une boîte, elle durait. Et parce qu'il y avait eu de l'engrais à la toque et elles ne sont pas habituées à ça. Quoi. Et elles n'ont pas besoin qu'on leur dise. Je dis à ça, tu peux continuer si tu veux du rendement, tu en as, mais ça ne va pas bouger. Tu mets une botte, les bottes qu'on a fait là, en bordure, où on est passé devant, je ne sais pas si tu as vu. Et bien là, d'ailleurs, une botte comme ça, elle est flambée dans la nuit, il n'y en a plus.
Parce qu'elle trouve ça meilleur.
Ah oui, voilà. Déjà, c'est un mélange d'herbes, il y a un équilibre. Et après, le goût n'est pas du tout pareil. Mm. Les animaux, ils sont pas dupes. Hein. Ils mangent là, ils ne mangent pas là. Pourquoi ? Il y a une raison.
Eh oui. Mais là, tu nourris pas l'industrie, du coup.
Ah non, ça, là, c'est clair. Non, non, mais après...
Et donc, après, tu as combien de vaches ?
En mer, au jour d'aujourd'hui, il y en a 125, à peu près.
125 mères ?
Ouais, 125 mères. Et après, des veaux, bon, il y en a qui sont partis. Il y en a, je sais pas, là, actuellement, j'en ai au moins 80, quoi. Si je compte, oh oui, là, oui. Si je compte les jeunisses que j'ai gardées, il y a de l'eau là. Il y en a. Là j'en ai rajouté deux ce matin. Il y en avait 12, ça fait 14. Et 12, ça fait 26. Et dans les box avec les vaches là, qui sont encore qui têtent, qui ne sont pas sevrées, il y en a encore 5 ou 6. Donc tu vois, ça fait une. Je sais plus, 30 et quelques. Que je garde comme une future maman. Et encore là-dedans, je vais encore sélectionner celle qui me... Parce que bon, des fois, tu as une bête qui est un peu maigrichonne ou moyenne, et tout d'un coup, elle démarre et elle devient excellente. Bon, mais après, celles qui ont la conformation, celles qui sont calmes, il y en a deux ou trois qui sont vives, elles vont être en sursis.
Avoir la conformation, qu'est-ce que c'est?
Un dos assez large pour lever l'âge déjà, et le fessier rebondi.
Ça, le fessier rebondi, c'est parce qu'il y a la viande qui est là.
Voilà,
c'est ça.
C'est le muscle de la viande. En fait, quand elle s'assoit sur la chaise, ça occupe bien la chaise. Quoi.
Et donc après, tu as cherché à avoir des races particulières qui sont adaptées à la région ou...
Là, c'est des bêtes, ici maintenant, c'est la blonde d'Aquitaine. Et après, moi, j'ai rajouté quelques salaires, c'est quelques angus. Bon, mais ça, l'angus, elle vient de loin, mais quoi que celle-là, les miennes, elles sont nées dans le Gers, donc elles sont françaises, quoi. Et ça, c'est des... Ouais, non, pas migrants, mais... Oui, à une époque, oui. Parce que les mères étaient nées, certaines en Allemagne et d'autres en Suisse. Et Max est arrivé dans une propriété dans le Gers. Et puis un beau jour, il a pris sa retraite. Et puis, lors d'une annonce, je cherchais des bêtes, des angus. Et j'ai trouvé cette annonce, il y avait 80 bêtes. Et je suis parti le voir. Je suis arrivé à 8h du matin, je suis reparti à 3h du matin, on avait parlé de tout sauf des vaches. Et puis il m'a rappelé deux ou trois jours après, il me dit « Daniel, on a réfléchi avec Hélène, peut-être ça serait bien que tu achètes tout. » J'ai dit « Oui, mais Max, moi j'ai pas les sous pour... » Et puis j'avais déjà 250 bêtes. J'ai dit « Déjà, j'ai pas les sous et puis la place, je l'ai pas. » Oui, mais on se disait que ça serait pas mal que tu prennes aussi la ferme. Écoutez, tu vois, dans la vie, il y a des trucs, tu vois. Je ne sais pas si dans une autre vie, on a vécu des choses, mais je veux dire que là, je suis arrivé, on s'est parlé comme si on se connaissait. La preuve, le temps est passé. Bon, à l'époque, je buvais un peu de vin, parce qu'il faisait du vin aussi. Donc, quelques bouteilles et d'ail, si tu veux, on a passé plus de temps. Mais bon, voilà. Et donc, de ce fait, j'ai acheté des angus. Et le but, c'était en fait de diviser le troupeau en trois, l'angus, la salers et la blonde, de garder que celle qui me plaisait, enfin que je, tu vois, comme je les voulais. Et pourquoi la salers et pourquoi l'angus? Parce que c'est des bêtes qui mettent du gras, qui peuvent manger, qui sont rustiques, qui peuvent rester dehors, tu vois, qui peuvent manger que de l'herbe, et ça, c'est persillé, ça fait... En plus, l'angus, elle n'a pas de corne, donc c'est un avantage. Elles se battent pratiquement pas. C'est des bêtes qui sont pacifiques. Elles mangent, elles se couchent. Un peu comme la salers. La salers aussi, elle a un port de corne qui n'est pas dangereux. Ce n'est pas agressif comme sur les blondes ou sur des limousines ou d'autres bêtes. Quoi. Et puis bon, après, au final, le problème, c'est qu'il fallait partager la propriété en trois. C'est-à-dire pour faire un lot de blondes avec le taureau blond, un lot de salers avec le taureau salers et un lot d'angus avec le taureau d'angus. Et en sachant que, autant pour la salers que pour l'angus, il fallait que je fasse que de la vente directe. Que je vende mon propre produit, parce que sinon, pour l'Italie, ça ne marche pas. Hein. C'est pas dans les... ça éclate pas, il n'y a pas de... Il y a un peu de forme, mais pas comme les voculars blonds là, que tu as là. Tu sais.
Donc l'Italie, pourquoi tu parles de l'Italie?
Eh bien, parce que c'est... L'Italie, c'est eux qui achètent tous les veaux broutards.
Donc c'est là
tous les veaux blonds, ouais. Voilà, c'est
ils
eux qui les engraissent.
Là-bas.
Voilà, ils les engraissent, ils font du babi, ils font du babi de 18 et un petit peu plus. Et après, ils les poussent bien et ça pèse des 500, 600 kilos et compagnie.
Donc ça veut dire que là, sur les vaches que tu as, la plupart vont partir en Italie.
Devraient partir en Italie, mais comme aujourd'hui il y a la fièvre catarrhale et comment j'ai pas voulu les vacciner, de ce fait, je peux pas les expédier. Donc il faut que je les passe en viande. Voilà, mais...
Donc ça veut dire que toi, tu vas les engraisser?
Oui, je les engraisse. Je les engraisse à la maison. Et j'en ai déjà vendu un en steak haché d'ailleurs, et j'ai gardé le carré, les carrés de côte et tout ça pour le resto. Mais ça veut dire aussi que si jamais je ne trouve pas assez de monde pour les vendre, là, ça ne va pas aller bien. Ouais. Voilà, parce que j'ai fait le choix de ne pas faire la vaccination, parce que je ne suis pas pour ces vaccinations, ni plus pour les humains d'ailleurs, encore moins peut-être. Voilà, donc c'est un choix, maintenant il faut que je l'assume, mais bon, il faut quand même que je trouve du monde.
Radio Éphémère, on continue à parler dans cette Une Tuerie des Épinards d'élevage, avec cet éleveur-restaurateur qui s'appelle Daniel Lovato, au Bœuf d'Antan, donc sur Brignemont, à seulement 40 km de Toulouse, et on peut entendre vraiment qu'il y a une certaine philosophie de sa pratique d'éleveur. Je pense que c'est important de le noter.
il n'y a pas tant de monde que ça qui fait ce travail, en particulier avec autant de vaches. Moi, j'avoue qu'en voyant Daniel travailler avec entre 200 et 300 vaches, plus un restaurant, et en faisant ça tout seul, plus, oui, j'allais oublier la vente de viande aux particuliers, j'avoue que j'ai du mal parfois à comprendre comment il arrive à tout faire. Mais rien que pour ça, déjà, c'est un travail extraordinaire. Et en plus, il fait de la qualité. Donc, comment ne pas l'encourager ?
La vraie traçabilité, ça serait la race, pourquoi pas. Mais surtout, c'est viande issue de chez l'éleveur ou viande issue de chez l'engraisseur. Et là, ça cause. Parce que je vais te dire, quand tu prends un morceau de viande, que tu le mets dans sur le grill, bon, tu vas moins le voir parce que c'est pas pareil, quoi. Mais dans une poêle, tu le vois ton morceau de viande qui fait ça.
Qui est réduit. Hein.
Voilà. Et ou qui bave. Eh bien, ça vient de l'engraisseur. Ça vient pas d'un éleveur.
Alors que, il faudrait acheter de la viande qui a été...
Il faudrait acheter de la viande, mais
qui
ça...
vient de l'engraisseur, voilà, qui vient de l'éleveur plutôt.
Qui vient de chez l'éleveur. Oui. Alors après, il y a deux solutions pour faire ça. La première, ça serait pour la survie de l'éleveur, ça serait d'acheter directement chez l'éleveur, forcément. Ou après, chez des bourgers qui se respectent, qui achètent des bêtes en campagne et qui vont depuis des années chez des éleveurs et qui achètent toute la bête, pas qu'ils vont faire du réassort. Quand ils ont vendu le faux filet qu'il n'y en a plus, ils vont faire du réassort. Donc ils vont acheter à la cheville ou chez Métro, pareil, parce que j'en ai vu. Mais voilà, s'ils tombent encore une fois, là c'est la loterie. Si tu tombes sur une bête d'un éleveur, ça va aller super bien. Si tu tombes sur une bête d'engraisseur, ça va aller beaucoup moins.
Il y a un éleveur qui travaille bien aussi.
Mais éleveur, c'est... Voilà, c'est ça peut, il ne peut pas travailler mal. Voilà, un éleveur, bon, après, qu'est-ce qu'il peut faire un éleveur? Oui, ils peuvent mettre, il y en a certains qui mettent des phytos, tout ce qui s'ensuit. Mais bon, si tu fais pas, si tu n'en mets pas, de toute façon, tu ne peux pas avoir. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant, qui se sont rendus compte, raisonnables, quoi. Et il y en a beaucoup qui le pratiquent. S'il n'y a pas besoin, on ne traite pas. Bon, avant, on ne prenait pas le risque, ils y allaient, quoi.
Donc, qu'est-ce que c'est un engraisseur, en fait? Quand on va en Italie, ça veut dire que c'est quelqu'un
qui... Un engraisseur, c'est un gars qui achète des bêtes, hein, qui sont ou en état comme ça ou maigres, et qui en 100 jours fait, dans des bêtes adultes, des vaches par exemple, en 100 jours fait une vache grasse. Ça par exemple, tu le mets à l'ensilage de maïs, tu le mets au soja, ça va, là il va doubler, comme
doubler
c'est
pas permis.
Ah ouais, doubler de volume.
En 100 jours.
Là un petit peu plus de 100 jours, puisqu'il il les garde 18, enfin... Ils font du babi de 18 mois, les veaux, ils ont quoi? Ils ont 5-6 mois quand ils les achètent. Bon, ceux-là, ils ont un an. Tu vois? Donc, s'ils me les achetaient, eux, ils les feraient doubler, alors que moi, il va falloir du temps, tu vois.
Et alors, pour l'éleveur, il lui faut combien de temps? Il faut combien de temps, là?
Oh, ben là
sans
il...
Sans utiliser de soja...
Sans utiliser d'aliments qui les font pousser... Je sais pas, il faut un an.
D'accord.
Voilà la différence.
Aussi, c'est une question de prix après.
Bien sûr que c'est une question de prix. Mais c'est pour ça que si on arrive. Notre survie, c'est de faire ça, de continuer à faire du naturel comme ça. De toute façon, moi, j'arrêterai, mais je me foutrai pas à mettre des produits. Ça c'est contre ma façon de penser, je veux dire. Mais plutôt, j'arrêterai. Mais c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est arriver à les vendre en vente directe pour nous revaloriser. Pas pour faire fortune, mais juste pour nous tenir la tête hors de l'eau. Voilà, on en est là.
Donc là, important vraiment du sujet, cette notion entre l'éleveur et l'engraisseur. Je pense que ce que pointe Daniel Lovato est fondamental. Et on en a rarement la perception en tant que consommateur qu'il y a des éleveurs qui travaillent globalement bien. Une bête qui vient d'un élevage directement aura été élevée dans de bonnes conditions. La problématique, elle se joue beaucoup au niveau de l'engraissage, qui est la partie la plus chère, en fait. On en avait parlé d'ailleurs avec Bernard Prieur. Cette notion d'engraissage, c'est la plus importante et c'est celle forcément sur laquelle on a envie d'augmenter l'efficacité le plus possible pour gagner le plus d'argent. Donc c'est là que ça se joue. Donc on achète en circuit court, on est certain d'avoir une bonne viande, ne serait-ce que parce que on va pas passer par ces engraisseurs qui vont vous faire de la viande qui paraît belle en une centaine de jours, ce qui n'est pas possible concrètement. Pour terminer, on va retourner voir Daniel Lovato. Il m'a emmené voir un petit veau qui venait de naître. Et c'est assez joli de l'entendre parler avec ce veau, m'expliquer ce qu'il fait. Et il utilise une méthode qui s'appelle l'imprégnation. En fait, il fait des appositions, il touche le veau à certains endroits qui seront ensuite régulièrement... Enfin, le veau sera régulièrement, quand il deviendra vache, régulièrement touché à ces endroits, notamment par exemple, il fait quelque chose au niveau des oreilles, là où elles vont être, elles vont avoir un numéro là qui va être agrafé dans leur oreille, on va dire. Et on va écouter ça, voilà, pour terminer tout doucement notre rencontre avec Daniel.
Ah, celle-là, là. Un petit mal. Voilà, c'est la première fois qu'elle fait, tu vois.
Ouais.
Alors donc ça c'est les jaunisses que j'ai cajolé depuis qu'elles sont venues au monde. Et celle qui avait l'air ce matin, c'est celle-là.
Elle a fait une petite belle. Elle est pas plus petite que ça d'ailleurs. Elle a bien travaillé.
Elle a quel âge?
Comment?
C'est sa première...
Oui, elle est née sur la terre, la petite belle, là.
Ah oui.
Voilà. Alors, donc, l'imprégnation, c'est ça, tu vois. Là, tu passes ta main dessus. Là, au petit. Là, oui. Là. Ici, la pression à l'oreille.
Ouais.
Là. Ici, ce côté, puisque là, il y aura le mot qui va passer. Voilà, ma fille, oui.
Voilà un petit moment de poésie avec une vache. Peut-être qu'un jour on n'en mangera plus, peut-être qu'un jour on deviendra tous végétariens et nous verrons les vaches dans les prés uniquement comme moyen de tondre les collines. M'étonnerait qu'on voit ça un jour, mais bon, à mon avis, on aura plutôt plus du tout de vaches dans nos campagnes, à savoir si c'est un bien ou un mal. On ne le décidera pas ici. Quoi qu'il en soit, il y a un homme qui les aime, qui aime les élever, qui aime les cuisiner, qui aime les manger aussi, et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'éleveurs, beaucoup de gens comme ça. Il sera intéressant, bien sûr, de lire... certaines personnes, une ancienne éleveuse qui s'appelait Jocelyne Porcher, qui a écrit plusieurs livres sur ce bonheur, sur cet amour pour les animaux et ces gens qui travaillent avec. Je dirais, bah, allez manger à Brignon, allez rencontrer les éleveurs. En tout cas, s'il faut manger de la viande encore aujourd'hui, autant les manger chez ces gens-là. Au bœuf d'antan, ça s'appelle. Et l'éleveur-restaurateur, il s'appelle Daniel Lovato. Et pour finir en musique, Randy Hauser, c'est un musicien country québécois qui nous propose une chanson qui s'appelle Like a Cowboy. Vous allez vous éclater avec ça. À très bientôt à vous et bon appétit si vous êtes à table.
Every time I fall, I get back up again. Cinch my saddle up and find me another wind. Let it take me where it wants to go. Another one horse town, another damned old rodeo. I know this life is crazy, but I'll be home soon, baby. I'll ride in on a sunny day, sing you a song, steer your heart away like a cowboy. Hang my hat like I'm here for a while, kick off my boots and drive you wild like a cowboy. Be gone.
brings me love. I need a bunch of that. This midnight winding road runs through my blood. I can't give it up like I said I would. I know it's hard on you, but like I always do, I'll ride in on a sunny day, sing you a song, steal your heart away like a cowboy. Saddle up and find me another way.